Nous avons de bonnes raisons de nous interroger sur la violence parce que nous savons qu'elle grandit dans notre univers, n'est-ce pas? Mais les scientifiques ne remettent jamais en cause leur définition de la violence, qui est généralement en termes d'agression. Et si on dit agression, eh bien c'est un mot qui est un peu démagogique, je pense, parce que quand on pense à l'agression, on n'est jamais soi-même l'agresseur. Donc si on prend l'agression comme définition de la violence, personne n'est jamais responsable de la violence. Ce sont toujours les autres, des inconnus dont nous ne savons pas d'où ils viennent. Et au fond, on perpétue l'idée de la bonne nature humaine qui est celle de Rousseau.
Un autre paradigme ou une autre définition de la violence, celle de René Girard, le philosophe et historien des idées, c'était lors d'une conférence à l'ENS il y a 2 ans. Comment exister face à la violence? C'est la question du jour, soulevée dans son essai par la philosophe Elsa Dorlin, professeure de philosophie politique et sociale au département de sciences politiques de l'université Paris 8, auteur précédemment de La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, un ouvrage paru il y a un peu plus de 10 ans, et de sexe, genre et sexualité. Introduction aux philosophies féministes en 2008. Elle publie aujourd'hui Se défendre, une philosophie de la violence à la découverte, une histoire de la violence, de l'Algérie colonisée aux violences policières en France et aux États-Unis et à celles exercées aussi contre les femmes contraintes de répliquer pour être considérées comme des citoyennes à parts égales. Une histoire de la violence, mais surtout une généalogie de l'autodéfense politique, pensée comme nécessité vitale, comme pratique de résistance. Qu'est-ce que la violence fait au corps et ce qu'elle met à nu, quel sujet révèle-t-elle? On en parle avec notre invitée Elsa Dorlin, bonjour.
Bonjour.
L'affaire Harvey Weinstein, pour commencer, c'est une affaire qui commence à faire beaucoup, beaucoup de bruit. La presse américaine, ce matin, dénonce une culture de la complicité. C'est vrai qu'on y retrouve à peu près tous les ingrédients de ce type de scandale, la misogynie, l'infériorisation de la femme, le silence aussi. Quel dispositif s'est mis en place, d'après vous, dans cette affaire?
Voilà, c'est un cas paradigmatique de harcèlement caractérisé, et même d'agression sexuelle et de viol, qui ont été commis de façon systématique. Et on a vraiment la possibilité de le penser comme sur l'échange économico-sexuel contraint, violent, parce que cet homme a du pouvoir, qu'il a des ressources qu'il distribue, et qu'il considère que les femmes, actrices, assistantes, secrétaires, standardistes, elles ont à échanger leur corps en tant qu'il est un corps sexué. Et sauf qu'on est dans un échange qui est contraint, violent, menaçant, qui suscite la peur, le silence. Et voilà, pour moi, tout est en place en fait pour comprendre que, comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment dans une dynamique de sexisme crasse, et en plus dans des sphères dans lesquelles ces derniers temps, on a peu insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas de personnes qui auraient telle ou telle culture ou telle religion. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la haute société américaine.
On est dans le bel Hollywood.
Exactement.
On est dans un rapport de domination qui interroge aussi les corps, qui interroge la légitimité de la victime à se défendre dans cette affaire Harvey Weinstein. Quand je le vois, je me sens petite, faible, idiote. Après le viol, il a gagné, explique notamment l'actrice italienne Asia Argento, violée par Harry Weinstein. Selon elle, à l'âge de 21 ans, elle le raconte dans le New Yorker. Là, c'est vraiment deux corps en présence, l'un dominant, l'autre victime. Aujourd'hui, il y a une parole qui se libère et ça évoque un des principes que vous développez dans votre essai, Elsa Dorlin, celui du dispositif défensif. Pourquoi ces femmes n'ont pas réagi sur le moment? Pour certaines d'entre elles, alors certaines ont réussi à partir, ont pris la fuite, ce qui était une forme peut-être d'autodéfense. D'autres n'ont pas réussi à mettre leur corps en mouvement pour partir. partir. Il y a ce qui rend, écrivez-vous, cet élan inhabile, hésitant ou dangereux. C'est le cas ici. Une autre témoigne, Rosanna Arquette, une autre comédienne, dans des mots qui sont rapportés par Libération. Refuser ses avances valait anathème dans le milieu.
Non, mais là, on est vraiment aussi dans, si on veut comprendre pourquoi une telle situation est possible et comment s'en défendre, justement, c'est aussi sur une réflexion qui doit être menée sur toute la façon dont les corps sont construits, de façon, et voilà comment intervient cette construction genrée des corps qui fait que certains sont construits comme des corps légitimes à exprimer une sexualité qui est une sexualité toute puissante et qui d'ailleurs est aussi évidemment rendue toute puissante parce qu'il y a des ressources économiques, des positions de pouvoir dominantes occupées, et d'autres corps sont genrés, sont définis comme des corps féminins, précisément parce que ils ont été interpellés de façon constante, historique et socialement construite autour de leur sexualité, de leur sexualisation, comme une ressource à la fois valorisée, mais à la fois à disposition, et comme une ressource aussi qu'il faudrait échanger contre un certain nombre de privilèges ou tout simplement de statuts et de positions sociales. Et ce qui est intéressant dans l'exemple d'Argenteau, c'est qu'elle, c'est bien l'idée aussi que on voit bien que le corps féminin pourrait avoir comme définition générique le fait qu'il est agressable. Voilà, il est agressable.
Que ce soit sur l'écran, puisqu'on parle de cinéma, dans cette industrie du cinéma, ou également derrière, finalement, ça fait écho à l'instrumentalisation, la sexualisation du corps de la femme dans l'utilisation qui en est faite commercialement par cette industrie et également derrière.
Exactement, la surérotisation permanente en fait du corps qui le définit comme un corps féminin, eh bien, ce n'est que l'une des faces qui met au centre la question, encore une fois, de l'échange économico-sexuel qui est complètement asymétrique, c'est-à-dire que les femmes doivent offrir et doivent se soumettre sexuellement pour obtenir un certain nombre de choses, ou pas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que on pense l'échange, et que si elles ne veulent pas se soumettre, eh bien, elles sont contraintes à se soumettre.
Vous dites, Elsa Dorlin, que l'autodéfense n'a paradoxalement pas de sujet, que le sujet qu'elle défend ne préexiste pas à ce mouvement qui résiste à la violence dont il est devenu la cible. En quelques mots, l'autodéfense s'activerait quand on se sent attaqué pour ce que l'autre décide que nous sommes et non pour ce que nous savons ou croyons être.
Mais là, on voit bien que dans le cas, encore une fois, c'est... Il n'y a pas de sujet qui préexiste à la défense, puisque là, en l'occurrence, il faudrait défendre quoi ? Son honneur, évidemment son intégrité corporelle, mais sa subjectivité en tant que c'est une subjectivité abjecte, une subjectivité féminine, surérotisée, genrée, et ça rend complètement claustrophobe. Enfin, c'est-à-dire que aucun sujet ne vit de façon permanente dans le stigmate ou dans cette identité qu'on lui prête ou dans cette... Donc l'idée est vraiment de montrer que, et dans des cas évidemment historiques qui sont d'autant plus dramatiques, c'est-à-dire où on est dans des cas où c'est la déshumanisation absolue de corps et de personnes, le moment du passage à la violence, le moment du passage à l'autodéfense, c'est précisément dans cet élan d'un hors de soi que quelque chose comme une nouvelle subjectivation advient, un sujet qui... par le déploiement d'un muscle, en fait, advient comme un sujet politique.
Toujours sur cette affaire Harvey Weinstein, de ce producteur d'Hollywood, que plusieurs femmes accusent aujourd'hui d'avances très insistantes et de viols pour certaines, sur ce dispositif défensif que les victimes peuvent mettre en avant à un moment, on évoquait cet élan inhabile qui fait que individuellement, peut-être certaines n'ont pas réussi à réagir, à mettre leur corps en mouvement pour se défendre dans cet instant. Et sur cette question du groupe, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les conditions semblent réunies pour favoriser le déploiement de cette réaction, de cette défense? Comment vous analysez ce moment de cette rupture de silence?
D'abord, je fais pas une hiérarchie morale, politique ou axiologique sur la bonne façon de se défendre. Et comme on le disait, la fuite, c'est une autodéfense qui n'en a pas le label, mais c'est l'une des pratiques d'autodéfense les plus efficaces.
Et la parole en est une aussi.
Et la parole, certainement, mais et le fait que ces femmes, précisément, sont encore là pour en parler, c'est précisément qu'elles sont parvenues à se défendre. Mais ce qui est problématique, certainement, en tout cas dans ce que ça nous permet de penser, c'est que tout semble être fait pour que aujourd'hui le cadre dans lequel on définit se défendre, signifie que la défense intervient toujours après coup. C'est-à-dire que un certain nombre d'actrices, pour se protéger en fait de ce prédateur, sont allées voir leurs compagnons, eux-mêmes acteurs, et ce sont ces hommes, ces acteurs, qui sont allés voir ce producteur pour lui dire qu'il fallait quand même qu'il se calme par rapport à leur compagne. Donc toutes les autres, ils n'avaient pas un droit sur elles, mais en tout cas là, le recours à cette instance tiers, donc le compagnon, le mari, le recours aussi après coup à la loi, c'est-à-dire qu'il est évidemment nécessaire d'entrer dans un processus de justice, mais là où le bât blesse, c'est que tout se passe comme si les seules façons dont on a pour se défendre aujourd'hui, c'est toujours une défense qui arrive après. Il faut parler après que ce soit passé. Il faut porter plainte, donc, mais une fois que ça s'est passé, ou aller se référer à une protection masculine. Or, ce qui est intéressant dans la question de l'autodéfense, c'est-à-dire c'est le moment où ça se passe. C'est aussi tout en amont, les ressources dont on dispose pour éviter que ça se passe, ou pour, au moment où ça se passe, avoir un certain nombre de puissance, une puissance d'agir, qu'elle soit individuelle, collective, mais y compris symbolique, pour arrêter ce type d'agression et de violence.
Mais c'est aussi peut-être en cela que ce type d'affaires sont emblématiques, parce que même si ça se joue pour l'instant après, va se développer peut-être un certain nombre d'outils, un certain nombre de principes qui vont permettre que ces dispositifs d'autodéfense se mettent en place dans l'avenir, en fait. On est en train de créer un précédent qui permettra à ces femmes, dans un certain milieu, dans une certaine situation, d'avoir de quoi réagir par ce type d'agression, dans ce type d'agression.
Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un peu un glissement sur la question de l'autodéfense. C'est-à-dire que là, ce sont des dispositifs de justice. Mais la question que pose l'autodéfense, c'est d'autres types d'actions, d'autres types de positionnements politiques et individuels qui supposent qu'on prenne, par exemple, l'échelle d'un corps, enfin d'essayer de comprendre comment, dans une situation donnée, justement, le corps est tétanisé par la peur, et comment essayer de politiser ou de penser cette peur pour qu'elle se transforme en rage, par exemple, et que, quelle que soit la corpulence de l'agresseur, eh bien, l'agression soit arrêtée par un passage à la violence physique, pour répondre à la violence physique qui est faite. Mais c'est aussi d'autres modalités, par exemple, de politisation de la question. On voit en Inde, avec le gang des Saris Roses, le recours, par exemple, à la police ou à la justice étant inopératoire, puisque la justice ne réagit pas, la police refuse de prendre les plaintes. Eh bien, les femmes se sont organisées en amont, et à la moindre dénonciation d'une violence d'un mari sur sa femme, sur ses filles, sur ses sœurs, eh bien, les femmes se sont mobilisées avec des bâtons, aller au domicile de cet individu et aller le molester pour lui faire comprendre physiquement que la patience est à bout, c'est-à-dire que ce n'est pas tolérable. Alors que là, il y a une forme, dans ce qui est mis en place, bien sûr que peut-être ça aura un effet pédagogique, didactique et préventif, mais c'est toujours une forme de volonté pédagogique de dire aux agresseurs, quand même, c'est pas bien ce que vous faites, il faut vraiment arrêter, ce serait vraiment sympa d'arrêter. Mais enfin, à un moment donné, les choses ne se jouent pas comme ça historiquement. il y a là aussi la restauration d'un rapport de force qui est nécessaire.
La violence est-elle politique ou est-elle une affaire personnelle? C'est une question qu'on pose souvent dans les affaires de violence faites aux femmes aussi. Retour sur une autre polémique qui peut illustrer votre propos, celle qui a opposé dans des propos assez violents Sandrine Rousseau, qui était l'ex-secrétaire adjointe d'Europe Écologie Les Verts, venue défendre son livre Parler, où elle évoquait son agression, celle dont elle a été victime de la part de Denis Baupin, ancien député écologiste, qui l'a opposé à Christine Angot, chroniqueuse et écrivaine. C'était dans l'émission On n'est pas couché.
Il n'y a même pas eu de réaction en quelque sorte du parti après l'affaire DSK, alors que nous on a mis en place une cellule de lutte contre le harcèlement, contre les violences. Il y a des référents, les personnes peuvent appeler des personnes qui ont été formées pour accueillir la parole, etc. Et donc, si vous voulez,
La parole, mais qu'est-ce que j'entends? Formée pour accueillir la parole. Arrêtez de dire des trucs comme ça, mais c'est vous formée.
Pour accueillir le témoignage, je sais pas comment.
Accueillir la parole. Former pour accueillir le... Non, mais en effet, vous savez pas comment dire. Former pour accueillir la parole. Mais... Non, mais moi, attendez, moi, je retourne dans ma loge. C'est pas possible. Moi, je peux pas entendre des trucs. Mais
qu'est-ce qui vous énerve?
Non, mais rien ne m'énerve. Former pour accueillir. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas entendre ça. Essayez de le comprendre. Je ne peux pas entendre ça.
Quel est, à travers cette séquence, pour vous, qu'est-ce que ça exprime du statut de la parole aujourd'hui, Elsa Dorlin?
C'est intéressant de voir que tout l'enjeu ici, c'est de faire advenir comme réel ces violences. D'où aussi la question de la parole, du témoignage, pour faire advenir dans le monde vécu le fait que ces violences sont réelles et existent. Et c'est très intéressant dans la façon dont Angot répond, parce qu'elle dit « je ne peux pas entendre ça ». C'est inaudible. Donc c'est aussi la réitération de quelque chose qui est une forme de déréalisation de ces violences.
En tout cas une affaire personnelle. Là où Sandrine Rousseau dit il faut en parler pour matérialiser.
Pour le publiciser. Oui. Et parce que là, ici, c'est la question de faire advenir comme réel ces violences dans l'espace public, c'est-à-dire dans un réel qui est un réel pour tous, un réel commun. Or, la réaction de Christine Angot, c'est une affaire personnelle.
On se débrouille.
Donc, ça n'appartient qu'au réel pour soi. Donc, ce qui permet aussi d'engager la question, ça, c'est arrivé à moi parce que certainement je suis responsable dans mon comportement ou j'étais comme ceci, j'étais comme cela, j'ai provoqué cela. Et ça crée une forme de solipsisme de la victime qui est enfermée, en fait, dans ce monde vécu qui n'advient jamais comme un monde commun. Et ça, c'est vraiment, de ce point de vue-là, la parole, elle est essentielle. Mais elle est essentielle, encore une fois, ce qui me gêne ou ce qui m'inquiète, c'est un peu le leitmotiv des campagnes de prévention des violences faites aux femmes. Parlez-en, libérez la parole. Non mais, d'accord, mais pour faire advenir quelque chose comme réel, il n'y a pas que la question du langage. C'est très intéressant, c'est encore laisser le corps... Et le féminiser, le sexuer, dans un corps qui n'a absolument aucune expérience vécue de ce que peut être le réel aussi, d'une frappe.
C'est un peu ce que dit Christine Angot aussi, contre cette injonction justement collective à la parole.
Oui, mais le problème, c'est que le présupposé de Christine Angot, c'est qu'il faut que ça reste une affaire personnelle, parce que ce n'est pas politique.
Dans la gestion qu'en fait chacun.
Exactement.
Est personnelle.
Or, à l'échelle, le politique, il est également à l'échelle personnelle, individuelle, intime. Donc, la question, ça peut se politiser quelque chose, n'est pas forcément... c'est le rendre public, c'est faire en sorte qu'une expérience vécue puisse être dans une, enfin partagée avec d'autres et devienne une question politique. Et renvoie à un rapport de pouvoir qui est politique, social, qui a une histoire. Donc ça, c'est fondamental. Mais ce qui est fondamental aussi, c'est que un certain nombre d'expériences vécues individuellement, dans l'intimité, dans la dimension prosaïque de notre vie, de notre quotidien à toutes, en l'occurrence, sont éminemment politiques. Et donc, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment, en dehors des collectifs, en dehors de l'espace public, on peut politiser même intérieurement, en fait, cette question de la peur, du silence, de la déréalisation de son monde, à travers, justement, un passage à la réplique, à la défense.
Et dans Télérama, elle dit aussi « J'en ai assez qu'on demande aux femmes de revendiquer la souffrance ». Cette idée aussi de la projection de soi, du sujet dans l'espace public, de ce qu'on attend de nous aujourd'hui ou de cette manière d'être définie.
Bah là, elle touche à la question aussi de la politisation, de la constitution de la catégorie de victime comme une catégorie politique. Et ça, c'est un réel problème. C'est-à-dire que à partir du moment où vous faites passer une catégorie juridique dans l'espace politique pour en faire une catégorie revendicative, c'est-à-dire les victimes doivent parler, les victimes doivent être, etc., demandent de la protection, il y a juste un petit problème dans la définition même. C'est-à-dire que, par essence, une victime est passive, mutique, irresponsable et ne peut pas elle-même, en fait, se constituer comme un sujet par sa puissance d'agir, puisqu'on suppose qu'elle n'a pas pu agir. Et ça, c'est quelque chose qui vient vraiment, ça produit de l'impuissance.
Elsa Dorlin est notre invitée pour son nouvel essai « Se défendre, une philosophie de la violence » qui paraît à la découverte France Culture. Il est 13h18.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Dans cet ouvrage, Elsa Dorlin, vous interrogez la question de la violence, mais aussi celle de la défense. Alors, est-ce les deux faces d'une même pièce? Pourquoi certains sont légitimes aujourd'hui à se défendre et pas d'autres? Pourquoi la possibilité même de se défendre est un privilège qui semble, dans l'histoire, réservé à une minorité? Vous partez de deux affaires qui démontrent comment l'usage légitime de la défense peut se retourner contre celui qui tente de l'exercer. Celle d'abord du Guadeloupéen Millet de la Girardière en 1802. Il était enfermé dans une cage, il avait été condamné. Et dans cette cage, il y a une lame qui est placée entre ses jambes et qui peut le blesser grièvement s'il blesse. Ça, c'est la première affaire. La deuxième, c'est celle de Rodney King en 91. C'était un jeune conducteur de taxi. Il n'est pas armé, il va être arrêté, frappé, mis à terre par une vingtaine de policiers. Et vous dites, de ces deux affaires, Millet de la Girardière aurait pu se défendre, mais en se défendant, il devenait sans défense. Quant à Rodney King, il s'est défendu, mais en se défendant, il est devenu indéfendable. Que faire ?
En fait, ces deux scènes historiques, elles tentent de définir ce qui, dans la définition moderne du sujet, place la question de la défense de soi, de la conservation de soi, qui philosophiquement est aussi la question du droit à la conservation et du droit de juridiction, c'est-à-dire non seulement de se préserver par tous les moyens possibles, mais également donc de faire se faire justice soi-même, et que dans la définition moderne de la subjectivité, ces droits naturels en fait sont constitués et donneront lieu à un certain nombre de traditions juridiques et politiques que l'on connaît sous le terme de légitime défense. Mais dans le cas de Millet de la Girardière en 1802 en Guadeloupe, d'abord c'est un révolté, Millet de la Girardière, il est blanc, mais il est révolté au moment où les troupes napoléoniennes viennent rétablir l'esclavage et au moment où ces troupes napoléoniennes importent des colonies anglaises, un dispositif de punition qui s'appelle la cage de fer et qui est très intéressant, puisqu'en fait on met les individus dans cette cage de fer, on les met sur des étriers, donc avec une lame coupante, et finalement ce qui est sous-entendu, c'est qu'ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent résister. Et donc on interpelle ces sujets comme pouvant se défendre eux-mêmes. Ce sont des sujets qui peuvent se défendre, hein. Il a qu'à résister finalement. Sauf qu'il est affamé, enfermé, etc. Et que, évidemment, ce par quoi il pourra résister va s'épuiser inévitablement, et c'est précisément ce par quoi il va mourir, comme s'il mourait par lui-même, comme si sa puissance
passivement
même de résistance se transformait tout d'un coup en mise à mort. Donc c'est un dispositif qui vient dans la saisie de ce paradigme défensif. Il y a une certaine technologie de pouvoir qui interpelle les sujets dans leur capacité à se conserver, à se défendre et même à être capable de le faire, et qui en même temps, pour certains de ces sujets, va aller miner cette capacité pour la rendre en fait elle-même faillible, pour que cette capacité se sente, enfin, ne soit pas en mesure de se défendre, et que même plus on se défendra et plus il y aura de répression et de promesses de mort.
Alors que dans le cas de Rodney King.
Alors que dans le cas de Rodney King, donc là, c'est la trans. Millet de la Gérardière, c'est vraiment la trans. Enfin, le ciblage de la puissance d'agir que l'on rend sans défense. Et dans le cas de Rodney King, en fait, c'est prêter encore une fois à Rodney King, parce que c'est un homme africain-américain, et parce que depuis des décennies, on construit le corps africain-américain et noir comme un corps qui n'a pour seule puissance d'agir que la violence. Donc un corps qui est menaçant, qui est intrinsèquement dangereux, et dans la paranoïa blanche états-unienne, telle qu'elle est, elle est encore une fois héritière de la période esclavagiste et ségrégationniste, Rodney King, même s'il fait un geste pour se protéger de la matraque d'un policier qui vient lui fracasser la mâchoire, ce geste, inévitablement, dans le cadre d'intelligibilité qui est dominant, sera perçu comme un geste d'agression.
Et là, on voit la ligne de partage s'inscrire entre ces corps qui seraient dignes d'être défendus ou de se défendre, et de ceux qui ne le sont pas, dans la perception du groupe. À partir de là, quelles réactions peuvent avoir ceux qui devraient être en position de se défendre? C'est pas un éloge de la violence que vous faites dans cet ouvrage, mais bien une histoire aussi de l'autodéfense. Comment vous différenciez l'autodéfense comme arme de réaction de cette idée de se faire justice soi-même?
C'est pas l'autodéfense comme arme de réaction, c'est l'autodéfense comme pratique de soi, comme une forme d'ascèse martiale qui est presque liée à une perception très... C'est l'élan vital, en fait, que je réfère aussi à Hobbes et à la question de la conservation de soi.
Parler d'éthique martiale de soi.
Exactement. Hein. Que Hobbes perçoit comme un trait anthropologique et qui fait que, voilà, cet élan, cette force qui va, ce conatus, voilà, pour emprunter à d'autres, évidemment, à d'autres traditions, mais c'est un mouvement, et c'est un mouvement que j'ai voulu saisir dans sa corporéité. Et ensuite, évidemment, de cette expérience défensive, mais qui est une expérience vitale au fond, vient se greffer un dispositif juridico-politique qui va être la légitime défense. Mais la légitime défense se construit sur certains sujets, finalement, seront dignes d'être défendus parce qu'on leur prête déjà un droit à se défendre eux-mêmes. Et d'autres sujets seront rendus indignes à être défendus précisément parce qu'on ne leur reconnaît pas, non pas cet élan, mais un droit qui vient légitimer cet élan. Et donc, c'est aussi, évidemment, les esclaves. Ce sont l'ensemble des minorités qui ont été destituées des droits élémentaires. Ce sont les femmes parce que, dans une définition canonique, elles ne sont pas propriétaires d'elles-mêmes, par exemple. Et évidemment, la défense de soi est liée au fait que je suis propriétaire de mon corps, je suis propriétaire de moi-même. Et donc, je suis réputée légitime à défendre cette propriété, à la fois mon corps, mes biens.
Alors, Elsa Dorlin, il y a la légitime défense, il y a aussi la violence légitime. Vous réfléchissez également sur ce sujet, sur la violence d'État, la violence légitime. C'est un sujet qui est sensible en ce moment en France. On l'a vu dernièrement avec ce procès qui s'est terminé hier avec des peines de prison ferme pour des militants, justement, de gauche radicale qui contestaient cette violence légitime avec des manifestations contre les violences policières, après les manifestations contre la loi travail. On connaît tout ce contexte. Comment vous analysez, vous, cette remise en cause, ce questionnement de plus en plus fort et de plus en plus violent aussi de la violence, du monopole de la violence d'État?
ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est que justement, j'interroge le monopole de la violence, l'usage de la violence légitime par l'État, en disant qu'en fait, historiquement, c'est plutôt des processus, une tendance monopolistique, mais où l'État s'est toujours préservé un droit de transférer à certains citoyens ou à certaines catégories le droit d'exercer également légitimement la violence quand il refusait absolument à d'autres catégories de recourir à la violence. Donc ce qui est en jeu aussi ici, et ce que j'essaye d'étudier en revenant sur le cas de l'histoire d'Israël notamment et de Tsahal, c'est le fait qu'il y a eu une modification des techniques policières de maintien de l'ordre ces dernières années. Enfin, je veux dire, les spécialistes de la question relèvent en tout cas pour une part que sur la question du maintien de l'ordre, ce qu'on avait pu repérer comme non pas tant une forme d'euphémisation de la violence, ce serait excessif de dire ça, mais en tout cas comme des formes de maintien de l'ordre qui étaient plutôt la mise à distance, l'éloignement, etc. Donc l'évitement de l'affrontement violent. Que les techniques de maintien de l'ordre elles-mêmes ont réincorporé l'idée selon laquelle, pour incapaciter un mouvement social, eh bien précisément il fallait l'acculer à la violence, le disperser, le noyauter au sens vraiment l'infiltrer, mais on l'a vu dans les manifestations, on l'a vu lors des mouvements de Nuit Debout, vraiment presque, je dirais, aller exciter, aller énerver, en fait, justement, le corps à corps, pour que la violence en réponse, la violence défensive, éclate, et que ça justifie, en fait, une violence répressive qui, elle, pourra toujours se définir comme une réaction légitime pour venir canaliser la violence de manifestants que l'on définit comme une violence nouvelle, voilà, comme un passage, comme un retour à des mouvements violents. Alors que c'est bien plus complexe que ça. Je pense que l'effet est bien plus dialectique et que, en l'occurrence, sur l'affaire de Valmy, c'est aussi la question de ce qui est défini comme un acte violent et la peine que l'on va donner, évidemment, alors de façon souveraine par les juges, on est bien d'accord, mais en l'occurrence, malgré tout, j'ai bien compris qu'il faut, voilà, la voiture des policiers incendiée, etc. Mais là, certaines personnes ont lancé un plot dans une voiture et ont pris de la prison ferme, 5 ans de prison ferme.
Réflexion dans cet essai, Elsa Dorlin, aussi autour de cette idée de ne pas devenir à nos corps défendants des corps défensifs qui acceptent d'être gouvernés par la peur au nom de notre sécurité. C'est bien sûr une réflexion d'actualité puisqu'on vient de voir l'état d'urgence s'inscrire dans le droit commun avec le vote des lois antiterroristes, des lois renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Une réflexion donc qui s'inscrit dans ce contexte. Merci beaucoup à vous. Se défendre, une philosophie de la violence vient de paraître aux éditions de La Découverte. Merci Elsa Dorlin, merci Camille Magnard et à toute l'équipe de La Grande Table aujourd'hui, Perret Legras avec Emmanuel Morse-Tincan.